chers amis, bonjour, bienvenue dans Planche Case Zébule, où nous continuons à parcourir l'histoire de la bande dessinée. Après les tout premiers pionniers, après ce long détour par les États-Unis où nous avons pu parler de Little Nemo, de la fille de Marge, la fille du magicien, etc. Retour en Europe et surtout dans la bande dessinée française. Alors pas juste francophone comme Topfer, mais vraiment française avec ceux qui d'ailleurs ont pillé en partie Topfer comme Cam, mais aussi d'autres grands noms dont on se rend compte que la littérature dessinée, comme on pourrait l'appeler, a été l'une des passions grâce à tous les illustrés qui paraissaient, à tous les journaux satiriques, qui font vraiment la part belle à l'image. Sachant que voilà, on s'installe véritablement dans des récits séquentiels avec une succession d'images et que c'est cette succession qui fait sens avec une inventivité incroyable dans les mises en page, avec là aussi soit des mises en page parfaitement rhétoriques, c'est-à-dire qui se plient à l'histoire, soit au contraire des mises en page parfaitement décoratives où la structure générale de la planche gouverne presque le sens qu'on va donner à l'histoire et où c'est plutôt le mouvement général du regard qui d'ailleurs ne va pas simplement de gauche à droite et de haut en bas, mais qui parfois trace des ellipses, trace des huit, incite à descendre puis à remonter dans un mouvement circulaire. Là aussi, en fait, tous les codes sont en train de se mettre en place, mais il y a une véritable intelligence de ce nouveau parcours du regard. Il y a une nouvelle intelligence qui sera parfois oubliée et redécouverte avec des gens qui s'imaginent sincèrement être les premiers à mettre en place une nouvelle dynamique dans le regard et qui, en fait, non, pas du tout, se contente de retrouver ce qui est potentiellement latent dans chaque page, pourvu qu'on décide d'écrire en bande dessinée plutôt que d'écrire tout court ou de dessiner tout court. Je crois que, puisque tu t'es lancé dans Topfer, tu t'es évidemment intéressé à Cam, Christol.
Oui, il y a des historiens de la bande dessinée qui recherchent quelles ont été les premières œuvres en Europe, aux États-Unis et donc, bien sûr, en France. Et ceux-ci considèrent qu'en France, le premier auteur de bande dessinée est sans doute Charles Amédée de Noé, qui était vicomte. On a la chance parce qu'il a raté le concours de l'école polytechnique. Et donc, comme il savait, en plus des mathématiques, également dessiner, et il a commencé à faire des petites caricatures dans des revues. Et ça se joue à quelques années, mais en fin de compte, le créateur de la bande dessinée en européenne, on va dire que c'est Topfer. Et en France, Cam a connu les BD de Topfer parce qu'elles étaient, comme tu l'avais révélé, éditées un peu partout en Europe très rapidement. C'était un grand succès au début, la bande dessinée. Ça plaisait d'ailleurs plutôt aux adultes, hein. C'était plutôt une offre pour les adultes. Et Cam, dès 1839, a créé dans des journaux des petits récits. Que je me souviens, tu en as peut-être lu, toi Richard, je ne me souviens plus en avoir lu.
Je suis vieux, mais quand même pas au point d'avoir lu Cam, qui est vraiment un auteur totalement 19e. J'avoue que c'est
assez confidentiel.
Voilà, c'est devenu un auteur pour amateurs éclairés, parce que le style a quand même considérablement vieilli par rapport à d'autres auteurs à peine plus vieux à peine plus récents, pardon, et qui pourtant ont bien plus de mérite.
C'est pour ça qu'on peut le citer quand même pour indiquer aux éditeurs quel a été le premier créateur de BD en France. Mais celui qui est de la même génération à 10 ans près et qui lui reste connu en France entière et même dans d'autres pays, c'est l'illustrateur Gustave Doré. Je dis l'illustrateur puisqu'en France, il reste connu essentiellement pour ses magnifiques œuvres d'illustration. Il y a des peintres, on l'a oublié, sculpteurs, on l'a oublié. Et même créateur de bande dessinée, je pense que c'est très méconnu. Et pourtant, c'était quand même sa première œuvre, son premier attrait, la bande dessinée. Il faut imaginer que Gustave Doré, ce super illustrateur, dès qu'il est tout petit, est passionné par le dessin. Et donc, à l'âge de 5 ans, il montre un talent précoce. Et à 13 ans, dès 13 ans, sa première œuvre est publiée. Ce sont des petits dessins lithographiés à la plume. Et rapidement, il réalise un album de 16 pages intitulé « L'histoire s'en souvient enfin seule l'histoire de la bande dessinée s'en souvient, les aventures de Mistenflûte et de Mirliflor. Et là, au début, il s'inspire vraiment du style qu'on avait évoqué, le style de Rodolphe Topfer, où il y a des dessins assez simples et quand même, il faut le dire, beaucoup de textes en dessous ou au-dessus, mais il n'y a pas encore de bulles. Et dès l'âge de 15 ans, bah, il devient un caricaturiste, et on l'a dit, la bande dessinée, à ses débuts en France, c'est plutôt pour les adultes. Beaucoup de caricatures. Et il publie en 1847 Les Travaux d'Hercule. C'est quand même déjà un travail assez conséquent. Il y a 46 planches, donc une vraie bande dessinée par rapport à la taille, avec une centaine de dessins. Il faut imaginer trois cases par planche. Et autour ou en dessous des dessins, nous avons encore une fois un texte. Et dès là, dès cette œuvre, on peut remarquer qu'il y a quand même des dessins assez expressifs. Alors, les œuvres de Gustave Doré, on peut les voir sur Internet, sur différents sites, et on se rend compte dans celle-ci, donc les Travaux d'Hercule, qu'il y a beaucoup d'expressivité. Et comme il était caricaturiste, Gustave Doré va quand même aussi parodier ce célèbre récit mythologique. Dans ce récit encore, quand on le regarde bien, il respecte quand même Topfer, mais il commence à s'en libérer en disposant des vignettes de plusieurs tailles. Alors que Topfer, c'était vraiment très, très droit, très linéaire, toujours la même taille. Là, il commence à prendre de la liberté. Et nous, on sait que dans cet art, c'est un art de liberté. La bande dessinée, on fait un peu ce qu'on veut. Et donc, il prend de la liberté. Et cette liberté va être plus forte encore quelques années après, en 1854, où il publie l'histoire pittoresque, dramatique et caricaturale de la Sainte Russie. Et c'est un vrai récit, et on peut même penser que c'est la première œuvre française de bande dessinée humoristique. Ce ne sont plus quelques dessins, c'est toute une œuvre où il va se moquer de la Russie. Mais alors pourquoi Gustave Doré se moque de la Russie? Eh bien, il faut replacer cette œuvre dans son contexte. Napoléon III vient d'engager la France dans la guerre de Crimée aux côtés des Anglais. On se demande bien pourquoi Napoléon III est allé se battre aux côtés des Anglais. Eh bien, c'était pour en plus soutenir l'Empire ottoman contre la Russie, pardon. Et donc, pour plaire au public qui à l'époque était très patriote, pour vendre donc du papier, Gustave Doré fait un album assez politique où il dénonce, il critique enfin il se moque des Russes depuis la naissance de la Russie. Et d'ailleurs, dans la réédition de cet ouvrage, assez récemment, il y a une préface rédigée par l'historienne Hélène Carrère d'Angos qui a révélé toutes les erreurs historiques qu'il y avait dans cette bande dessinée. Faut pas en vouloir à Gustave Doré parce qu'à l'époque, on n'avait pas comme aujourd'hui autant de possibilités de connaître l'histoire ancienne de la Russie.
Et puis
Mais en tout cas, on
surtout
retient que ce n'est pas
Gustave
une œuvre
Doré,
historique, ce n'est pas une œuvre politique, c'est surtout une œuvre humoristique.
voilà.
Et ceux qui aiment Gustave Doré, eh bien, il faut se la procurer, il faut la parcourir. On est quand même assez éloigné des superbes caricatures, pardon, de ces superbes illustrations, je voulais dire. Alors, on a tous déjà feuilleté l'Enfer de Dante, la Bible, Don Quichotte, les Contes de Perrault de Gustave Doré. Mais moi-même, avant cette émission, avant ce thème, il y a encore quelques semaines, j'ignorais que Gustave Doré avait créé de la bande dessinée. Et on peut dire que c'est sans doute le premier artiste au sens vraiment art de la bande dessinée en France, Gustave Doré. Une belle découverte pour ma part.
Alors, une belle découverte. Alors, si vous allez sur le site des éditions 2042, donc comme l'année 2042, vous trouverez notamment Les Travaux d'Hercule, donc un livre de Gustave Doré, absolument remarquable. Je conseille à tout le monde d'essayer de fouiller dans les bibliothèques familiales si jamais vous trouvez les aventures du baron de Munchausen ou aussi les aventures dont j'oublie le titre, mais qui est un livre qui m'a absolument fasciné quand j'étais petit sur un soldat de Napoléon qui est de plus en plus démenti. Le malheureux et qui finit par avoir une jambe de bois, une main de fer, un crâne en acier, une bombe logée dans le torse. Et donc, cette espèce d'humour macabre et morbide du 19e qui est absolument sans limite. C'est l'année en Allemagne, enfin, c'est le même genre d'année où en Allemagne il y a Max und Moritz, donc les aventures de deux gamins qui désobéissent et à qui il arrive mais des abominations. Il passe écrase dans des hachoirs à viande, enfin, donc il ressuscite systématiquement pour une histoire suivante. Et c'est vraiment quelque chose d'assez horrifique. Mais voilà, 2042 publie Gustave Doré, publie une autre bande dessinée avec donc des histoires séquentielles, où c'est vraiment la succession des dessins, mais où malgré tout le narratif reste prépondérant. Il y a très peu de phylactères, voire pas du tout. Et donc ces narratifs, c'est la façon dont chaque image est commentée par en dessous. Et aussi d'ailleurs un très bel album de Benjamin Rabier, et notamment les planches aussi de bande dessinée que Benjamin Rabier a pu faire. Je le cite depuis le début de cette série historique, allez sur le site de Topferiana et perdez-vous dans tous les auteurs qui sont étudiés, chroniqués ou parfois juste montrés. C'est absolument passionnant et quand on parlait d'invention dans l'agencement de la planche, c'est vraiment là où on se rend compte à quel point le 19e est un âge particulièrement inventif. Après Gustave Doré, donc voilà, j'ai parlé de Benjamin Rabier, qui a entre les livres pour enfants, les planches illustrées, il y a des choses qui sont absolument admirables. Mais le grand de la proto-bande dessinée française, c'est quand même Christophe. Donc Christophe, qui est l'illustrateur, l'auteur en fait, pas juste illustrateur, l'auteur incomparable de La famille Fenouillard, Plic et Ploc, le sapeur Camembert et Le savant Cosinus. Ce sont des albums qui ont été publiés par Armand Collin ou Monsieur Colomb, puisque c'était son véritable nom, et donc il avait choisi comme pseudonyme Christophe, car il avait de l'humour, réalisait des choses admirables. En matière de sciences naturelles ou de discussions serrées sur la bataille d'Alésia et le lieu exact de la bataille d'Alésia. Voilà un savant 19e et qui, avec le sapeur Camembert, a réussi à mettre en scène l'armée française et la relative stupidité de la plupart des conscrits de l'époque, mais aussi le courage de ces soldats, avec le savant Cosinus et l'étourderie proverbiale des savants, et avec aussi une critique d'ailleurs des relations hommes-femmes particulièrement caricaturales, le savant Cosinus étant importuné par une veuve qui tour à tour tombe amoureuse de lui ou le hait. Et enfin, La famille Fenouillard, qui est son pur chef-d'œuvre. Donc, c'est une famille de bourgeois de province qui se retrouvent, malgré eux, engagés dans le tour du monde. Ils vont subir 1000 avanies, toujours. Et donc, monsieur et madame Fenouillard et leurs deux filles, Artémise et Cunégonde, martyrisés au long des pages par Christophe, qui est vraiment remarquable. Je me permets d'interrompre le cours normal de cette émission, non pas pour vous annoncer une grande nouvelle, mais pour vous dire que nous sommes en été, que merci beaucoup. Plusieurs d'entre vous ont bien entendu les messages que nous martelons, parfois un peu trop souvent, selon certains, comme quoi nous avons besoin d'argent pour traverser l'été. Mais malgré tout, c'est vrai, nous avons besoin de cet argent. Donc n'hésitez pas à soutenir .rc.fr. Ça vous permettra de continuer à écouter cette série et surtout toutes les autres excellentes émissions de Radio Courtoisie. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à aller aussi sur les plateformes de podcast Spotify, Deezer, Apple Podcasts et Amazon Music, puisque maintenant il y a à la fois toutes les émissions de Radio Courtoisie en podcast, c'est plus pratique quand vous voulez partir avec juste un téléphone, mais aussi des podcasts originaux, des balados comme nous devrions dire, mais le mot semble-t-il n'a eu aucune fortune. Voilà, donc j'ai rapidement parlé de Christophe, mais le sujet est inépuisable. Voilà, on va passer encore plus rapidement sur Benjamin Rabier. Il faut le citer, mais on ne va pas en garder. Il faut que tu nous parles de Bécassine.
Ça va être difficile puisque Bécassine est détesté dans mon beau pays breton. Alors là, on passe le siècle, on arrive au XXe siècle et c'est la première grande œuvre de la bande dessinée française, Bécassine. Alors il faut imaginer que dans un immeuble se crée pour la première fois l'hebdomadaire La Semaine de Suzette, qu'on commence la mise en page. Et la veille de l'édition, la rédactrice en chef, Jacqueline Rivière se rend compte qu'il n'y a rien pour la dernière page. Et ben, dans le couloir, il y a un dessinateur, Émile-Joseph Porphyre Pinchon, on va l'appeler Pinchon. Elle lui demande de faire une petite page, une petite planche. Et ainsi est née Bécassine. L'idée lui en est venue parce que c'est tout simplement une moquerie de la bonne de voisin, qui était d'origine bretonne, comme beaucoup de bonnes à l'époque. Il faut rappeler qu'au début du XXe siècle, énormément de Bretons ont fui la Bretagne, à l'époque très pauvre, pour vivre à Paris. Il y a beaucoup qui sont, beaucoup de femmes sont des bonnes. Parmi celles-ci, on imaginait le parcours de Bécassine. Ce qui a beaucoup déplu à la Bretagne, c'est que Bécassine, donc hébergée par une famille aristocratique parisienne, elle-même d'origine bretonne, donc Bécassine est montrée véritablement comme sotte, voire arriérée. Son nom Bécassine renvoie à Bécasse, désigne une fille naïve. Elle a un bon fond, elle est gentille, mais mon Dieu, qu'est-ce qu'elle est bête. C'est ainsi ce qui fait rire les petites filles, notamment de la sphère bourgeoise parisienne de l'époque. Mais ça a eu un grand succès. Il y a eu beaucoup d'albums, une trentaine, je ne sais plus combien. Donc Bécassine découvre Paris, Bécassine arpente les Champs-Élysées, le jardin de Luxembourg. Un album Bécassine fait de l'avion, un autre elle est en bateau. Elle a donc des aventures. Bécassine va soutenir le moral des poilus pendant la Première Guerre mondiale dans l'album Bécassine pendant la guerre, puis Bécassine chez les Alliés, et enfin Bécassine mobilisée. C'est quand même ce journal, La Semaine de Suzette, est quand même lu davantage dans le monde bourgeois. Et on ne serait pas étonné de savoir qu'en 1919, Bécassine est toute heureuse dans un album en découvrant qu'une grève a été brisée. Donc effectivement, il y a parfois des idéologies un peu de gauche, parfois un peu plus conservatrices dans la bande dessinée. Bécassine, c'est plutôt la deuxième optique. Mais j'admets que le dessin, quand même, est réussi. Il y a une certaine création dans les planches, mais quand même, j'ai beaucoup de mal à pardonner cette attaque en règle contre la Bretagne. Qu'en penses-tu, Richard?
Alors bon, d'une part, il y a toujours le plaisir de se moquer des provinciaux quand on est parisien et de se moquer des humbles quand on est bourgeois. Et je pense que Comrie et Pinchon y ont cédé. Alors le reproche est arrivé assez vite. Bon, il faut quand même dire, tu l'as souligné, que la semaine de Suzette était lue dans toute la France, donc ce ne sont pas que les bourgeois parisiens qui se moquaient des Bretons. Mais il y a Bécassine, qui est une bécasse, effectivement, mais la marquise de Grantaire a sa propriété en Bretagne et n'est pas censée être stupide. L'oncle Corentin qui a beaucoup d'affection pour sa nièce, est le maire intelligent du village où habite la marquise de Grantaire. Donc, il y a un nombre de Bretons qui sont des gens tout à fait normaux. Et donc, je crois qu'il s'agit moins d'un racisme anti-breton, comme on dirait aujourd'hui, que de la mise en scène, effectivement, d'un personnage qui surabonde dans la littérature française et même la littérature mondiale, qui est le crétin du village, et qui, peu à peu, d'ailleurs, se retrouve pas du tout enfermé dans ce rôle de bête sans éducation, mais qui, au contraire, et comme tu l'a souligné dans le récit des aventures, voilà, s'engage, prend l'avion, devient exploratrice, autrement dit, toujours avec une certaine naïveté qui est plutôt de la gentillesse. On se rend compte peu à peu que l'auteur lui-même se sert de Bécassine comme le véhicule d'idées tout à fait élevées de gentillesse, de courage, de dévouement, de patriotisme. Et donc, on est moins quand même dans les caricatures. Il faut là aussi souligner la précision du trait de Comrie et en même temps ce côté un peu flottant, les dessins ne sont pas toujours fermés, c'est parfois juste esquissé, les couleurs ne sont pas des violents aplats. Il y a un charme très spécial des albums de Bécassine qui ont été régulièrement réédités. Voilà, n'hésitez pas avec le commentaire, évidemment, là aussi, pas de phylactère, mais un commentaire, un narratif qui réussit à ne pas dupliquer bêtement l'image, à ne pas être juste la description de l'image qu'il surplombe.
Il faut savoir qu'il y avait une adaptation cinématographique de Bécassine en 1939, et ce film a été diffusé partout en France, sauf en Bretagne, où les directeurs de salles de cinéma l'ont déprogrammé de peur que les Bretons mettent le feu à leur salle.
Et voilà, c'est
Donc on
les...
imagine que quand même c'était très sérieux la haine bretonne envers Bécassine. Peut-être exagéré, mais on se doit de le signaler quand même, comme quoi la BD peut développer aussi des passions dans tous les sens.
Voilà. Alors, dans le synopsis que tu as fait de cette émission, on passe de la semaine de Suzette au pied nickelé, donc ça n'a rien à voir. C'est assez fascinant. On voit bien que la bande dessinée est un art qui est pratiqué dans toutes les classes sociales, dans les journaux qui s'adressent aux prolétaires comme aux riches, avec aussi donc des spécialités locales qu'on connaît encore mal. Là aussi, les historiens de la bande dessinée épluchent les journaux, des personnages qui naissent. On ne parlera peut-être pas du professeur Nimbus tout de suite, mais qui est un personnage fascinant et qui a connu une existence mouvementée, jusqu'à être dessiné par un écrivain collaborationniste pendant la Seconde Guerre mondiale. Et il y a à côté donc de la semaine de Suzette et des ouvrages destinés aux jeunes filles bien élevées, Bibi Fricotin et d'autres sacripants, voilà, qui sont nettement moins chic que Buster Keaton, qui est un garnement américain, mais de la haute. Voilà, Bibi Fricotin, c'est un saut de ruisseau. Et il y a surtout les Pieds Nickelés, donc créés par Louis Forton, Croquignol, Filochard et Riboudingue, que tu as regardé et qui ont pour eux un avantage certain, c'est que tous les gens qui font profession de vertu, qu'il s'agisse des communistes, des laïcars ou des catholiques, ont décidé que c'était des gens véritablement peu fréquentables.
Alors oui, c'est amusant. Alors cette série était plutôt bâtie pour les classes populaires. Puisque il y a beaucoup d'argot, d'expressions argotiques, il y a aussi un ton anti-bourgeois, donc on dénote une bande dessinée assez politisée, parfois un peu d'anarchie. Mais ce qui est amusant de relever, c'est que cette bande dessinée, on peut le comprendre, a fortement déplu à la droite catholique, puisqu'à l'époque, il y avait des journaux d'obédience catholique qui avaient leur propre bande dessinée et qui critiquaient celle-ci, les Pieds Nickelés. Mais cette BD a aussi fortement déplu au monde de gauche, à la gauche laïque. Si on se souvient les romans de Marcel Pagnol, eh bien, on décrivait une gauche laïque, mais profondément honnête, où le maître d'école voulait concurrencer le curé dans la droiture morale. Et dans la gauche populaire de l'époque, on aimait bien que la gauche, que les populaires soient présentés comme étant d'une grande droiture. Et là, en fin de compte, les Pieds Nickelés, ces trois personnes issues du peuple, ce sont des petites fripouilles qui font des blagues et des fourberies. Effectivement, ça a déplu également à la gauche laïque. Il fallait le relever. C'est assez amusant de le noter. Et par contre, Les Pieds Nickelés, ça reste encore une BD assez classique, avec un dessin et en dessous un texte explicatif. Mais petit à petit, on voit apparaître les bulles. C'est toujours difficile de déterminer ce qu'est exactement une bande dessinée, mais au fil des auteurs, au fil des albums que l'on présente, décennie après décennie, on s'approche petit à petit de ce qu'est vraiment la bande dessinée. Mais Les Pieds Nickelés, en tout cas, vous connaissez le nom, comme Bécassine, vous connaissez le nom, puisque c'est sans doute la bande dessinée française qui a duré le plus longtemps. Elle est née, on l'a dit, en 1908, et juste après Bécassine. Mais selon mes calculs, elle a duré plus de 100 ans. Alors, sauf si ça a repris récemment, je pense qu'on est rendu à 107 ans. Et il y a même eu un jugement civil il y a quelques années qui a déterminé que la bande dessinée Les Pieds Nickelés, du moins les héros des Pieds Nickelés, étaient tombés dans le domaine public. Donc, les petits filous Croquignol, Filochard, Riboudingue, voilà son nom, peuvent très bien être dessinés par n'importe qui en France, je crois qu'ils sont tombés dans le domaine public.
Alors,
70 ans après le décès d'un auteur. Je pense que c'est ça la règle qui s'est appliquée.
voilà, donc ils ont été dessinés par Forton, ils ont été dessinés par Pelos. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les dessins sont parfois très différents. Et alors, j'ai tendance à préférer les Pieds Nickelés deuxième période. Le dessin est moins. Moins sale d'une certaine manière, parce que
Oui, oui.
dans les premiers Pieds Nickelés, les personnages sont laids, ce
Oui,
sont
oui, oui.
des gens vulgaires qui vivent des aventures vulgaires avec des têtes vulgaires. Donc, alors que à un moment donné, le second dessinateur, ils ont toujours des trognes un peu patibulaires, mais le dessin est plus enlevé, le dessin est plus intelligent, et il y a des inventions graphiques admirables, il y a des raccourcis tout à fait bienvenus. On sent qu'il ne s'agit pas d'illustrer platement le texte, le dessin commence à devenir autonome et à porter lui-même quelque chose de particulièrement inventif. Mais et voilà, ça reste une bande dessinée très intéressante à fréquenter.
Et d'ailleurs, on peut se poser la question, pourquoi Forton, destinant une bande dessinée au milieu populaire, s'est senti obligé de faire un décès qui parfois il l'est. C'est assez étonnant. Qu'on soit du peuple ou qu'on soit du monde bourgeois, on aime la beauté pareillement. Et ça se doute une méprise et peut-être même de lui un caractère antipopulaire qui explique peut-être également que cette bande dessinée déplut la gauche laïque. Voilà, parce que les dessins aussi étaient laids. La bande dessinée déclenche des passions pour Bécassine. Elle a également déclenché des passions pour les pieds-nickelés.
Alors, et on termine, mais très rapidement, en 1 minute, sur Zig et Puce. Voilà, donc Zig et Puce, créé par Alain Saint-Augan, remarquable bande dessinée. Là aussi, les tout premiers albums de Zig et Puce sont un peu bizarres. Le dessin est très petit, les phylactères sont énormes. Mais Alain Saint-Augan installe un vocabulaire avec d'ailleurs des moyens réduits. Les bandes dessinées sont parfois juste rouge et bleu, avec différentes trames qui permettent de varier les couleurs. Il y a un canard, pardon, un canard, n'importe quoi, un pingouin qui s'appelle Alfred, qui est redevenu célèbre avec le festival de la bande dessinée d'Angoulême. Et surtout, Zig et Puce a été repris ensuite par Achille Talon, autrement dit Greg, qui en a publié quelques aventures qui sont d'ailleurs assez remarquables, où Zig et Puce vivent des aventures que, véritablement dans l'esprit d'Alain Saint-Augan, avec un dessin à mon goût 100 fois meilleur que les puristes me pardonnent. Et voilà, c'est cette bande dessinée qui, elle, est proprement française. Et Hergé considérait que c'était véritablement un rival, même s'il régnait sur la bande dessinée européenne.
Effectivement, alors Hergé tout jeune est allé voir Alain Saint-Augan, le créateur du Zig et Puce, pour demander conseil. Et d'ailleurs, on peut retrouver dans sa BD Kick et Pfluck certains traits communs avec Zig et Puce. Je pense que l'émission touche à sa fin maintenant, si j'ai bien compris.
L'émission touche à sa fin, donc on pourra
Oui.
reparler de Zig et Puce une autre fois. Merci beaucoup à vous tous de nous avoir écoutés et nous continuons évidemment à vous accompagner tout l'été avec nos souvenirs, ce que nous avons pioché dans les ouvrages savants que nous sommes allés compulser et bientôt nos bibliothèques, parce que malgré tout, voilà, il y a quelques anciens ouvrages qui traînent sur nos rayons. Merci beaucoup Christol et à la semaine prochaine
Merci
tout le
Richard.
monde.